Salut les beaux!
Hey, allô! Petru, deuxième épisode officiel, troisième, il y avait un pilote, ça ne compte pas vraiment. Deuxième épisode officiel aujourd'hui.
Yes, sir, Miller.
On reste dans les pays.
Oui, là, aujourd'hui.
On s'attaque à l'Empire.
On s'attaque à l'Empire, puis comment vous dire que c'est un gros morceau? Parce que l'Empire, en fait, c'est la base de l'historique.
La base de tout.
Ben, la base de tout, à tout le moins, une bonne partie de l'historique de Lycolin part de là. Donc, c'est un peu le fondement de cet univers-là. Fait que on part là-dessus. Fait que envoie mon troubadour, pars-moi le générique!
Good morning!
Day One, ça commence en 235, avec un monsieur qui vient de, on sait pas où, mais qui atterrit avec sa gang de bonnes gens sur un nouveau continent.
Fait que là, en 200, attends, wow!
235!
Puis là, pas en 1235, en 235.
Voilà, de la mesure où on est au jour d'aujourd'hui, techniquement en 1024, tu comprendras bien qu'on est point dans le futur.
Ben non, c'est...
C'est ça. Donc, 235, ça veut dire que bien avant qu'un joueur, justement, ait foulé les terres des collines, en fait, là, dans la construction de cet univers-là, c'est là que ça commence.
OK.
Donc, comme je disais, il arrive avec sa gang de bonne chance sur un nouveau continent. Le gars débarque de son bateau et se proclame monarquant premier, empereur de cette nouvelle terre conquise. Il fait construire un château et il nomme la région King's Island. Notre jeune conquérant s'aventure doucement vers l'ouest et il crée le duché de Colombsbourg et Kingsenberg. Des petits gains de victoire qu'il fait avec le temps, qu'il fait avec justement le peuple qui l'a amené avec lui, avance et conquiert de plus en plus de terrain. De plus en plus de terrain, mais qui sont loin de satisfaire la faim de son fils et j'ai nommé Notgar.
Notgar?
Notgar.
N-O-T-G-A-R.
Notre guerre.
Notre guerre.
Donc,
on va en gagner notre guerre.
Exactement. Fait que, ça, c'est le duc de Königsbourg, d'ailleurs. Le successeur de Monarquin se voit pas mal plus gourmand que son papa. Il veut un empire qui s'étend d'un océan à l'autre et à la mort de Monarquin en 297, il devient notre guerre premier, second empereur. Fait que Notgar prend ses armées et part à la conquête du Nord. Il sait cependant qu'il va tôt ou tard arriver à la frontière de Nazgûl, pays des elfes noirs. Mais son appétit de conquérant l'amène à traverser cette dangereuse frontière. C'est donc au sud de Nazgûl que Notgar crée la province de Notgar. Le narcissisme à son meilleur.
C'est ça.
Bref, plusieurs années s'écoulent. Il construit une grande forteresse et ça devient le quartier général de l'empereur. Il planifie d'ailleurs son assaut final sur Nazgûl. Puisque la prise de la province de Notgar avait été faite sans trop de résistance, notre protagoniste s'avance avec un peu trop de confiance sur le pays voisin.
Je savais pas que Nazgûl ça existait depuis si longtemps.
Nazgûl, techniquement, ça existait avant 235, là, tu comprends? Les elfes noirs, ils étaient là, ça fait longtemps. D'ailleurs, dans les tablettes du savoir, techniquement, ça parle de ça, puis ça parle justement que dans les fondements de cette planète-là, c'est les elfes noirs qui étaient là, day one.
Mais j'ai une question.
Oui?
C'est quoi les tablettes du savoir?
Les tablettes du savoir, ça va être pour un autre épisode.
OK, c'est bon.
Donc, bien évidemment, les elfes noirs sont pas super enchantés de voir la gang d'humains blancs colonialistes arriver sans invitation. La grande marraine Malika de Nazgûl déclare donc la guerre aux hommes en l'an 310. Une bonne journée de cette année-là, une petite armée d'elfes noirs avance sur la forteresse de Notgar.
Ils font pas de bruit, c'est des elfes.
Oui, certes. Celui-ci envoie son armée, confiant de défaire son adversaire qui est peu nombreux, mais c'était un subterfuge! La reine Malika et ses troupes avaient créé une illusion sur son armée qui était plus nombreuse au final et plus puissante que celle des troupes qui se trouvaient sur le terrain de notre guerre.
Oups.
L'armée impériale se fait prendre en souricière par des gobelins, des orques. Les Drax ailés couvrent le ciel et des milliers de flèches empoisonnées s'abattent sur les impériaux qui n'ont pas pu rien faire. Et le massacre est absolu. La nouvelle vient aux oreilles du second empereur qui est en tabarouette. Car oui, il lui reste encore une gigantesque armée, mais celle-ci est fucking loin en Kingsheim. Il envoie quand même un message et ordonne aux restants de l'armée de protéger le royaume et organiser sa défense. C'est à ce moment que ce que l'on nomma plus tard comme la guerre des mille piques prend tout son sens. Devant l'évidence de la défaite, la haute garde impériale sortit de la réserve avec ses mille piquiers et tenta de ralentir le plus possible l'armée de la reine Malika.
La guerre des mille piques.
Oui. Okay. Fait que, on a tenté, en fait, de ralentir l'armée de la reine Malika, qui était quand même 10 fois plus nombreux. Au cours du combat, l'empereur de notre guerre fut touché. Il laissa la vie ainsi que sa province éponyme bien-aimée. Larmes et sanglots.
Bon.
Mais pas le temps de pleurer, parce que la guerre contre Nesgaroth va durer plus de 200 ans. Fait que l'Empire a perdu sa province, notre guerre, mais pas un seul centimètre ne fut cédé de part et d'autre. Fait qu'ils n'ont pas été capables de conquérir, mais au moins, ils ne se sont pas fait prendre plus de terrain. Durant ces 2 siècles de guerre, l'Empire vit régner Iras Ier et Iras II, qui ne semblent pas avoir eu grand fait notable, à part qu'ils ont constamment repoussé les elfes noirs au courant des 2 siècles qui ont suivi.
Bon. C'est 200 ans.
Ouais, mais tu sais, en même temps, t'as pas le temps de faire grand-chose d'autre. Là. T'as tout le temps des elfes à ta porte qui demandent de rentrer.
C'est sûr.
Donc, par la suite, l'empereur Polignac arrive sur le trône impérial et en finit avec cette guerre interminable en l'an 512.
Il a fini de quel...
En la finissant.
OK, ben donnant, oui.
Ouais, ben, il s'est pas marqué dans les textes, j'ai pas trouvé nécessairement l'information.
Mais la guerre est finie,
après. S'il est allé voir Malika, il a donné une bouteille d'hydromel, puis il a dit, tiens, ma chum, on fait-tu...
C'est peut-être ça aussi.
On se met une brosse, puis je sais pas.
C'est peut-être
mais
ça.
Non, c'est pas marqué comment il a fait. Par la suite, l'empereur, qui est arrivé sur le trône, et qui se nomme Polignac, arrive devant un empire avec des coffres vides, et donc il s'emploie à redresser la situation. Chose qu'il fait avec brio. On dirait d'ailleurs que c'était l'âge d'or de l'empire. Fait que c'est comme le big time de l'empire. Il fit le tracé de Polignac, une route commerciale allant de Kingsheim à Pamoisar, se trouvant en Argan aujourd'hui. Il fit la Grande Traversée, qui est une voie maritime établie entre Pamoisar et Khadija, qui permet en fait d'établir le commerce avec Jabahal en Cité des Sables. Il a construit d'ailleurs 2 gigantesques ports navals dans la province de Kingsheim et Pamoisar. D'ailleurs, les Argonais le remercient encore pour cette dernière. Il fit moult conquêtes territoriales vers le sud cette fois. Il étendit les frontières de l'Empire vers des environs plus paisibles. Il a décidé de laisser faire avec le Nord et les Elfes Noirs. Dans ses conquêtes, l'Empire prit possession du territoire de l'Argan, puis de l'Andorre. Et pour le plus grand malheur des hommes bleus, en fit la découverte. Les hommes bleus sont un peuple autochtone qui vivait de chasse et de pêche. Ils sont particulièrement robustes et c'est pourquoi ils ont été délicatement déposés dans le fond des mines, avec pas de consentement, bien sûr. Au fil des années, le territoire s'agrandit autant avec l'Aldorf d'un côté qu'avec le Berkwald de l'autre, et la puissance de l'Empire prit tout son ampleur. Mais malgré la puissance de ce pays, l'Argan et l'Andorre donnaient parfois quelque peu de fil à retordre en contestant les moyens quelque peu robustes que les hommes de l'Empire utilisaient envers les hommes bleus. Ils ont développé de la sympathie envers ce peuple-là, l'Argan et l'Andorre. Mais Polignac n'était pas immortel, et une fois que son cercueil fut fermé, l'empereur Gabre prit sa place. C'est donc en 640 que ce dangereux gaillard déclara la guerre aux elfes.
Bon.
Des elfes des bois.
Ok, qui pas vivent, les mêmes.
Non, qui vivent en paix, parce que c'est ça que ça fait, des elfes, faire de la musique pour les animaux, puis faire mijoter de la ratatouille.
Genre.
Exactement.
Parce qu'ils leur voulaient quoi? Juste du terrain.
Ben, je pourrais vous faire croire qu'il y avait une bonne raison qui a poussé Gare à attaquer l'Irlandine. Ne serait-ce que l'odeur indécente de la ratatouille, mais il n'en est rien. La pas du gain datit.
OK, c'est ça. Fait que les elfes des bois, c'est Irlandine.
Ouais.
Ah, OK.
Fait qu'il a attaqué l'Irlandine because, just because.
Qui est comme une grosse forêt, genre.
Ben, qui est surtout un pays vraiment pas menaçant, là, tu sais. Fait que ça, en fait, c'est vraiment là, parce que Gare, il a vu son prédécesseur, Polignac, qui était genre un empereur extraordinaire qui a accompli plein de choses et il voulait faire
moi aussi.
Ça, c'est ça. Il voulait aussi laisser sa trace puis genre conquérir des territoires, mais tu sais, c'est comme une fausse bonne idée, tu sais.
Ouais.
Mais l'ambition de Gare allait l'amener vers sa chute. Car la population du Sud n'est pas super chaude à l'idée d'aller faire couler le sang dans les grands jardins voisins. Donc, le Sud se révolte et rencontre Landor, Largan, Clair Castel et même les âmes qui rejoignirent les camps des elfes des bois. Donc, l'empereur, pas plus fou qu'un autre, rassemble tous les seigneurs du Nord qui lui sont encore fidèles et s'attelle à aller châtier la province d'Andorre et ses rebelles. Une guerre familiale, un père qui brutalise ses enfants belliqueux qui ont été qui ont tenté une rouspette des plus déplacés. L'Empire gagne la guerre et fit exécuter Walef le Juste, seigneur d'Andorre, Jean le
Colmont. Il fit exécuter Walef le Juste, tu sais, déjà ouais. Là la France.
C'est ça, Jean le Colmont, seigneur de Clair Castel, et Maurice Almé, seigneur d'Argane. Pour ce qui est du seigneur d'Ozam, faut croire qu'il ne s'était pas donné la peine de se déplacer jusqu'à Andorre et avait préféré envoyer ses pensées les plus solides pour ses confrères. Bref, on ne le tue pas, fouille-moi pourquoi.
J'imagine qu'Irandil, ils y ont passé aussi.
Hein?
Irandil aussi, ils y ont passé.
Attends, ça s'en vient, là. Check bien okay. Ça s'en vient. Donc, ces exécutions, l'Empire le regrettera amèrement. Leur unicité venait d'être détruite à jamais. Gare Ier mourut par la suite le 2 janvier de l'an 680. Son fils, Gare II, prit sa place, âgé seulement de 2 ans. Pour ce qui est de l'Irlandine, la guerre fut un désastre pour l'Empire.
Ouais.
Ils ont perdu, se sont fait détruire. Mais le seigneur Bousquillon de Mariembourg réussit à négocier la paix avec les elfes. Au moins.
Mariembourg qui est
une province impériale.
OK.
Encore présente aujourd'hui. En l'an 712, la province de Landorre devient officiellement un pays indépendant, suffit de Largan et de Lausanne. Les terres du centre avaient perdu la grandeur que Polignac avait amenée sur leur royaume et à jamais. Donc, maintenant qu'on a un nouveau boré sur le trône, puis que son padré a littéralement tout pété avant lui, avant de lui léguer, dans le fond, un empire déchiré, qu'est-ce qu'on fait?
C'est ça, parce que là, après s'être fait péter, puis après s'être fait exécuter leur chef, pis tout, oublie ça, justement.
Ah non, mais les autres, justement, Morgan, en 712, se sont poussés, en fait, nous, on est un pays dépendant, vous pouvez rien savoir de vous autres, mangez de la boîte. Donc, puis là, en plus, là, Gare Ier, il est décédé, puis c'est son fils qui arrive sur le trône, Gare II, mais il y a 2 ans.
Il y a 2 ans.
C'est ça. Fait que là, on va le laisser vieillir un brin, 712 arrive, puis là, il y a une vingtaine d'années, puis les autres vont comme, hey, merci, mais non merci, on va se pousser. Donc là, il va se pencher sur cette situation plutôt bancale, et le constat n'est pas facile. Dans la perte de Largan, le port de Pamoissard est parti avec, et là, on n'a plus de route commerciale pour aller jusqu'en Cité des Sables. Il tente donc de créer une voie terrestre. Comment dire que c'est une fausse bonne idée? Pourquoi est-ce que c'est une fausse bonne idée, me demanderas-tu?
Pourquoi c'est une fausse bonne idée?
Parce que pour ce faire, il faut passer par le territoire de l'oubli. Et comment vous expliquer que ce ne sera pas une balade de santé? Plusieurs expéditions ont été faites par le passé pour aller explorer ces terres lointaines, mais aucune n'en est juste jamais revenue.
Mais les terres de l'oubli, c'est ça, ça mais dit dans le nom.
Ouais, c'est ça. Oublie que tu vas revenir, ça arrivera pas.
C'est qui est là dans les terres?
Ben c'est ça. Afin de mettre toutes les chances de leur bord, parce que là, l'Empire va faire sa route commerciale terrestre, la haute garde rassemble 6000 hommes. C'est plus expérimenté. Fait que l'expédition partit au début de l'an 716 et ne revint jamais du royaume des orques. Oups. Fait qu'on a 6000 hommes, 6000 impériaux qui sont partis au territoire de l'oubli et qui ne sont jamais revenus. Genre, je sais pas ce que vous comprenez, mais 6000 personnes, c'est beaucoup. Là,
ouais, non.
Ouais. On raconte que Garde 2 fut hanté par ses soldats disparus et que les soldats en patrouille dans la zone nord-est de l'Empire arrivaient à apercevoir la légion de soldats morts-vivants aux frontières, okay, attendant le jugement dernier ou que quelqu'un arrive enfin à péter le nécromancier.
Damn, fait que là tu me dis qu'il y a peut-être genre une armée de 6000 hommes qui sont des fantômes qu'on pourrait comme libérer dans l'année pour une dernière grosse attaque.
Ben, en tout cas, tu sais, si tu as l'impression que tu vois des soldats morts-vivants à la frontière, ça veut dire surtout qu'il y a un petit nécromancien, genre, accroché en arrière. Puis, tu sais, depuis ce temps-là, lui, es-tu décédé aussi? Est-ce que ça peut mourir aussi un nécromancien, là, tu sais? Peut-être que oui, peut-être que non. On le sait pas. Fait que, c'est ça pour l'instant. Par la suite, en 766, excusez, plus d'un siècle après la guerre contre l'Irlandil, l'Empire en arrache. Les relations avec les nouveaux royaumes d'anciennes provinces sont vraiment tendues. Les épidémies de 722, 735 et 761 ont décimé une bonne partie de la population. Oups. Tellement que les villages sont abandonnés et des terres qui ont été autrefois prolifiques étaient maintenant revenues en friche, faute de paysans pour les entretenir. Moment parfait pour qu'une gigantesque armée de 100 000 orques du territoire de l'Oubli se mobilise pour marcher sur l'Empire. Donc, en 766, l'armée de Shrek, oui, oui, comme le bonhomme, piétine les champs de Marienhambourg et la belle province subit un ravalement de façade. Les fiefs de Blumenthal et Effingen, pardon, sont rasés et labourés. La haute garde impériale réussit à ralentir la horde en brûlant les champs et en inondant leur propre territoire. Avec les tranchées creusées sur les terres de Strasbourg et en mobilisant la population locale, ils réussissent à résister assez longtemps pour voir la grande armée impériale arriver. Comme l'avait dit Gandalf, au cinquième jour, regardez à l'ouest. Marienbourg a résisté et Strasbourg est sauvé.
Yeah!
Et là, ça met un peu terme à l'historique de Bicolline avant.
C'est ça, là, c'est passé joueurs... un autre quasiment 300, quelques ans
ben là, avant on est que dans...
Bico commence.
Ben, en fait, là, tu sais, je sais pas, il s'est pas marqué Gare 2, il a vécu jusqu'à quand. Puis Gare 3, il y a comme... Lui, on arrive à Bicolline, puis c'est Gare 3, en fait, qui est l'empereur. Mais comme des rumeurs, que c'est comme... Il est un peu immortel, on dirait, genre, ça fait longtemps qu'il est là, là. Trop longtemps pour un monsieur qui est supposé d'être juste un homme mortel.
Mm-hmm. Puis là, genre, Bico a commencé en 984...
16. Donc, saut dans le temps, on fait une ellipse. Nous nous retrouvons maintenant en 996. Premier Bicolline officiel, enfin!
J'avais 2 ans, tu
sais. J'en avais 6.
C'est fou,
hein? Ouais, un bon bout. On passe sur un officiel nouvel empereur que vous avez entendu parce que là, je viens de vous en parler. Mais techniquement, vous en avez aussi peut-être entendu parler dans le dernier épisode du podcast sur le Berquois. Si ce n'est pas fait, je vous invite à aller le faire. Et en tout cas, j'ai nommé Garde 3. Fait que l'Empire en 996, c'est 7 provinces. Et j'ai nommé Marienbourg, Reckwall, Eckengran, Goria, Rexwall, Dalabheim et Kingsheim. Au courant de la première année terrain, c'est davantage l'Andorre qui est mis de l'avant. Avec la première grande bataille qui se fait contre Uskuada, une NPC du chaos alliée de Terratus. Fait que l'Empire fait plus parler de lui sur le terrain avec la grande bataille de la Pierre de Lune en 998. C'est un peu plus là que ça part, là, tu sais.
Pis Gare 3, c'est lui le celui devenu le soleil, là.
Non, ça, non, c'est Gare B.
C'est Gare B.
Ouais, ça, pour l'instant, il est seigneur.
Plus tard, là, OK.
Ouais, c'est plus tard, là, c'est okay, pas okay. Ça. L'Empire fait plus parler de lui, comme je disais, sur le terrain avec la grande bataille de la Pierre de Lune en 998. Le prince Moroth, un elfe noir du royaume de Nazgaroth, voulait récupérer la pierre de lune qui avait été dérobée par des orques. Il y avait de ça à peu près un siècle. Mais maintenant que Brabancourt avait mis la main dessus, Il a tenté des recours politiques pour pouvoir la récupérer, sans faire couler le sang, qui... mais tu sais, c'est resté sans réponse. Fait, il a tenté un jeu de diplomatie, puis ça a haché. Le prince irrité déclare la guerre au roi Solar et Agar III par la même occasion. Malheureusement pour les humains, les bibittes ont gagné et ont récupéré la pierre de lune.
Fuck.
Donc là, on va passer en 999. Oui, c'est ça. En 999, les choses se corsent un brin. La victoire du prince noir mit à mal, en fait, la terre des hommes et invita certains à la révolte. Parmi les révoltés, une tête prit place comme leader. Viacta. Celle-ci avait même réussi à construire un troisième front lors de la bataille de 998. Et il semble qu'elle n'avait toujours pas dit son dernier mot. Parce qu'en fait, quand la guerre s'est déclarée l'année d'avant, ils ont voulu faire du recrutement. Et là, dans le fond, il y a comme un troisième front qui s'est construit un peu en révolte. On veut pas aller à la guerre. Fait que pour ne pas aller à la guerre, manifester le fait qu'ils voulaient pas aller à la guerre, ils ont décidé qu'ils allaient faire un troisième front de contestation à la guerre.
Puis les deux autres fronts, dans le fond, c'était...
Ben, l'Andorre puis l'Empire contre, dans le fond, les Elfes Noirs. Regarde, c'est
tout le Brabancourt, c'est dans l'Empire, ça?
Non, Brabancourt, c'est dans l'Andorre.
C'est dans l'Andorre. Excusez-moi, mmh, on
y va, on est là, on est là.
C'est ça.
Donc,
bientôt, d'ailleurs, on va faire des épisodes avec un soutien visuel. Fait que vous allez tout pouvoir suivre ces cartes et tout.
Tout à fait.
Ça, là, mais
on va faire ça. On va faire ça. Ça va aider tout le monde, Jonathan en premier.
Surtout moi, là, moi.
Donc, ça clame liberté. C'était ce que l'on pouvait entendre scander chez ses rebelles, une vie meilleure, et pour ce faire, elle remettait en doute la légitimité de l'empereur. Et c'était une évocation que Gare III ne pouvait tolérer. Celui-ci mandata Machiavel de la Cabale pour éliminer la menace de ce que l'on nomma à l'époque le Troisième Front. Il lui promit en échange la province de Rexwald, s'il arrivait à les détruire. Ça vous rappelle-tu quelque chose, ça? En tout cas. Donc, ni une ni deux. Le général Cabaliste se pogne des mercenaires au pied carré. De son côté, Viacta, aka Vivi, pour les intimes, fait pas mal la même chose de son côté, mais plus avec des beaux discours qu'avec des solars. Malheureusement pour la belle Vivi, les paroles s'envolent, mais les coups d'albarde restent, et c'est ainsi que le troisième front fut cancellé et sa tête scalpée.
Oups.
Bon, on poursuit.
Fini la révolte.
Non, il y en avait et il y en avait eu. En l'an 1000, monsieur le sultan Naka Hossam de Jabahal, en fait son fils, si je ne me trompe, se fait un petit ambassade en empire, mais ultimement, il aimerait ça bien pouvoir s'installer dans les terres du centre pour pouvoir se construire un gros penthouse. Puis il jette son dévolu sur l'organe. Il engage la guilde de Gorgorbé, pardon, d'ailleurs, pour faire la sale besogne. Une tâche de 12 000 solars, une somme colossale pour l'époque. Hein? Ouais, c'est ça. Fait que la guilde t'est payée 12 000 solars pour faire ça. Là, tu sais, aujourd'hui, 12 000 solars, ben oui, c'est beaucoup, là, mais faut comprendre qu'à l'époque, à peu près, là, les anciens pourront en témoigner, là. Fait que Gorgor Ménouchou, ben à côté dans sa confiance, descend vers le sud remplir sa part du marché. Puis ça ne marche pas. Les organes ne sont pas super conciliants avec les intentions de ce seigneur impérialiste.
Eux autres, ils ont encore dans le cul de qu'est-ce qui s'est passé avec l'Empire anyway.
Ben, ouais.
C'est pour ça, dans le fond, c'est pour ça que l'Empire est tant aimé là, de tous.
Ben, il y a un constat historique, là, tu sais, je veux dire, derrière ouais. Tout ça, là, je veux dire, ça serait vraiment bizarre que tout d'un coup, genre, tu t'expliques l'histoire aux joueurs que t'as faite, admettons, de l'historique de cette GN-là, pis que là, les joueurs fassent que, hey, pour vrai, on change tout ça, on va devenir des gauchistes, genre, vraiment progressistes, ouais, pis, ouais. C'est ça, t'essaies d'être d'accord un minimum. Si t'es un bon joueur, t'essaies d'être d'accord. Fait que c'est ça. Fait que la guilde, donc, engage d'autres guildes de l'Empire pour mener à terme son contrat. L'organe ayant appartenu à l'Empire, ça provoque les égaux. Donc, pour autant, le sultan va avoir lancé quand même 12 000 solars dans le vide parce que Gorgorbé a perdu. Ça a pas marche, ça a pas marche. Fait que là, on part en 1001. La grande bataille met en place sur nos deux fronts l'Empire contre l'Alliance Celte. Si vous avez écouté l'épisode précédent, vous savez un peu de quoi ça tient. On en a un peu parlé, c'est ça, avec l'épisode de quoi?
Mettons, là. Fais donc.
Ben, c'est ça. Donc, les Celtes qui se sont fait conquérir par l'Empire il y a moult siècles. Nos souverainistes celtiques, malgré leur courage, devront essuyer un revers cuisant. Et comme le dit un Celte célèbre à travers la boucane de sa pipe, donc à ce que je comprends, on se dit à la prochaine fois, parce qu'ils ont tenté l'indépendance, puis ça pas marche.
Ça
pas marche, écoute. Fait que tu sais, je veux dire, ultimement, c'est vraiment ça. C'est juste l'Alliance Celte tente de l'indépendance, puis ça pas fait. Ça n'a pas passé au conseil. Donc, en l'an 1002, la province de Brias se voit sans contrôle à la suite de la mort de son propriétaire. Brias est le berceau de l'esclavage. Le commerce y est puissant et plus de la moitié des esclaves de l'Empire y proviennent à l'époque. Brias, ça vient des terres de caisse.
Les comme eux autres, c'est les comme plus dark,
genre. Oui, c'est ça, là. Même démon, là, tu sais, c'est là qu'on va retrouver le Telamuac, en fait, qui est un gros démon qui possède Telamuac. Hey, là, pour vrai, là, je cherche dans ma mémoire, mais
c'est. Tardokes,
c'est plus méchant, si on veut, ouais.
Mais on vous aime pareil, là, allô. Mais on.
En vrai, jouer avec eux autres, c'est le fun. Vous allez avoir du plaisir. Tu sais, si vous êtes un gros joueur, vous aimez ça, justement. Être un peu plus théâtral, peut-être, plus dans un personnage, puis l'idée ça comme ça, allez jouer avec ce monde-là, vous allez triper.
Ça se peut-tu que pendant la grande bataille, il y a comme une espèce de grande marche qui est aussi une espèce de grand rituel des Tardokes, puis ils font des sacrifices, puis
Ah, ça se peut, moi c'est bien possible, mais pendant la grande bataille, moi, je suis occupée à mettre ma guerre puis tout, fait que j'ai pas le nez rivé ben sur le chemin, là, puis en plus on est loin, nous autres, de base, fait que... Oui, ça se peut, puis j'ai manqué ce bout-là. Donc, en l'an 2, donc comme je disais, la terre de Brias. Brias est le berceau de l'esclavage. Le commerce y est vraiment puissant, puis la moitié des esclaves de l'Empire y proviennent à l'époque. Le regard des grands commerçants du pays se tourne vers Brias, mais pas que. Les Lambertrans, commerçants de l'Empire, proclament avoir plein de rois sur ces terres. Mais les Vandales le désirent tout autant, et les Osgoroths également. Bien que supérieure en nombre, la compagnie des Lambertrans va perdre contre ce double front qui possédait le bâton d'Irès. Est-ce que tu sais c'est quoi ça?
Un bâton.
Le bâton d'Irès. C'est un objet magique qui est plus en circulation aujourd'hui. L'objet permet en fait de ressusciter tout le monde de manière instantanée. Pas d'affaire de sablier là, à compter 30 secondes et de réciter une prière. Je te touche avec le bâton. Et tu te lèves. That's it.
C'était-tu en... Genre terrain, il y avait ça?
C'était terrain.
Shit, OK. C'est fait fort.
Ben c'est ça. Fait que, tu sais, peu importe le nombre de personnes que t'as, si t'as le bâton, je veux dire, pis que... Hey, tu cours, là, pis t'en flattes une trollée en même temps, là, tu sais. Tac, 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 tac. C'est fini, là, je veux dire. Tu relèves ton armée, là, comme rien, là.
Il pue en jeu.
C'est fort, ça n'a pas de bon sens, là, pour de vrai, là. C'est vraiment cool, là, comme objet magique, mais c'est ça, c'est bien trop fort. Donc, le commerce d'esclaves en prend une claque en empire parce qu'ils ont perdu Brias, finalement. En passant en 1003, une année où l'Empire n'est pas au centre du conflit, mais qui a son importance dans son histoire. Marie-Ambourg se construit un port, puis les habitants du territoire de l'oubli tripotent sur le concept. Fait que la province, après ça, de Dalaheim devient sujet de disputes et de magouilles entre la guilde Salmarac et le seigneur de Vorgrim. Le duc Gorgorbé devient un power duc avec plus de 15 fiefs qui l'appuient. Puis ça fait de lui quelqu'un de particulièrement puissant comme... Il domine pas mal toutes les élections impériales là, avec ça, tu sais. Yeah. Puis ça ne plaît pas à l'ordre du point de fer qui trouve que c'est un peu trop de pouvoir pour une seule personne.
Qui, eux, étaient des impériaux aussi.
Oui, l'ordre du point de fer, c'est eux qui ont été mandatés, en fait, par l'Empire pour aller péter le phénix.
C'est vrai, OK.
Bien sûr. Ah, yeah, on est là. Donc, en 1004, on est rendu Mais c'est sûr, on est rendu en 2004. Puis qu'est-ce qui se passe en 2004, mon Joe?
Ben, justement, tu vas nous le dire.
Ben, la guerre contre le Phoenix, ben oui!
C'est
Focus,
ça.
Focus! 10 points pour Gryffondor! Donc, pour ceux qui ont fait leur devoir et ont écouté l'épisode sur le Brockwall, vous savez déjà que, dans le fond, le Phoenix a attendu un paiement pendant 2 ans, ils se sont tannés, puis ils ont taxé le Brockwall à l'Empire comme secondaire 4 qui vole l'argent du lunch à la secondaire 1. Fait que Gorgorbé perd après ça son poste de régent impérial et c'est le Point de Fer qui prend sa place. Fait que Garde 3 aussi la même année meurt au courant. C'est ça de l'année, mon Dieu, je me répète. Mais il avait nommé un successeur du nom de Gaerel Baritz qui subira plusieurs tentatives d'assassinat cette année-là. Pas facile. Fait que si en 2004, c'était une grosse année pour l'Empire, je vous dirais que 1005 ne donne pas sa place non plus. C'est pas sur le champ de bataille que ça se passe, mais sur le jugement d'une enquête menée par la Guilde de Notre-Dame de la Rédemption. Au vu de l'enquête menée par les inquisiteurs, il semble que la haute cour impériale a été corrompue par Teratos. Fait que, c'est ça. Là, ça s'est rendu compte que tous les hauts placés étaient corrompus par le malin. Tu sais?
Déjà qu'ils étaient sûrement déjà corrompus car le pouvoir corrompt, mais là, en plus, c'était comme leur âme était corrompue.
Ben, ouais, c'est ça, là, tu sais. Fait que donc, l'ensemble qui fut nommé à l'époque par Garde 3 est exécuté. Le petit dauphin qui était supposé succéder Garde 3 est tassé et renié. Le conseil impérial reprend les rênes de l'avenir du pays. De son côté, le seigneur de Marienbourg est j'ai nommé le vénérable Valmir Todd Bringer, qui est en fait maintenant mec de jeu aujourd'hui, quitte sa province d'amour pour sa nouvelle obsession et j'ai nommé la pourfendeuse de Marienbourg. Fait qu'on part dans le territoire de l'oubli à la conquête de cette épée qui peut te smasher des orques comme dans du beurre.
Qui est un autre objet magique.
Oui.
La pourfendeuse de
Marienbourg. Yes.
Marienbourg qui...
Province.
Une province impériale.
Oui.
OK.
Donc...
Je le dis, moi, je sais. Là. Je le dis.
C'est bon. Déjà que l'année est rochante, voulais-tu pas un NPC qui est de retour pour leur jouer un mauvais tour? Et j'ai nommé Iskuada! La nécromancienne a convaincu, en fait, sa gang d'ouvrir un portail pour le royaume du chaos, Gadarost. Ouais. Fait que Teratos travaille fort dans les coins pour que ça se réalise. Ils se mettent en team avec les elfes noirs et les habitants d'Okies, appuyés par le grand Khan et le démon Tenamuak. Tout ce beau monde-là envahit l'Andor et l'Empire, voulant écraser chaque centimètre de vie. Mais tout ça, c'était sans compter sur l'aide de la super rédemption! Avec leur absence de sourire et leur pas de fun, les ténèbres ne perdent rien pour attendre. Avec leur pas de plaisir profond, le chaos n'avait pas compris à quel point ils allaient se faire chier. C'est avec un air bête rempli de mépris que ces hommes et ces femmes, tous de blanc et de noir vêtus, ont été kickés le cul de la nécromancienne et de sa gang de pas fins.
Yeah.
Bravo la rédemption, bravo!
Bravo la rédemption.
1006. Monsieur Gorgorbé est officiellement élu nouvel empereur au Galion. Ça, c'est l'ancien nom donné au Belpourpre. Tout le monde fait allégeance au nouveau sérénissime. Et même que le nouveau couronné nomme Hubert de l'Aube du Point de Fer, seigneur de la province d'Aldorf en guise de bonne foi, j'imagine, parce que techniquement, c'est vraiment eux autres qui avaient forcé pour le tasser comme régent. Fait qu'il a quand même tendu une main. Tendu une main, si. Ouais, c'est ça. Fait que une manière d'enterrer le passé, sûrement. Pas longtemps après, par contre, Hubert pis sa gang crachent sur leur serment et déclarent révolte sur la province d'Aldorf. Ah ben, tabarouette. Fait que 1007! 1007, qu'est-ce qui se passe? Écoute...
Guerre en Aldorf.
Non, mais ça aurait pu, par exemple, te le donne.
Ben, c'est ça, parce que là, mais ça, j'ai déjà entendu ça, Albert, puis Aldorf, puis le prince d'Aldorf, puis tout ça. C'est
Hubert.
Hubert
d'Aldorf. Mais c'est pas ça pas en tout, mais ça aurait pu, je te l'accorde, un bel essai. Donc, en 1007, c'est les gardiens du savoir, les gardiens de notre monde, nos grands protecteurs contre ceux qui nous guettent, quittent notre monde. Leur absence laisse les rois en proie à l'inquiétude sur l'avenir et la sécurité des royaumes. Bien des ressources utiles ont été laissées sur place par les gardiens pour les aider à nous protéger contre les infamies à venir. C'est comme si c'était des gardes. Ok, moi, c'est manière personnelle de le voir. C'est comme on dit des gardiens extraterrestres, là. C'est comme des célestes, en fait. Puis ils étaient avec nous sur notre monde.
Les Elohim.
Et puis ils nous protégeaient, en fait, c'est comme certains effets de la magie. Ils étaient vraiment en contrôle, justement, des vents telluriques, en fait, ce qu'on appelle. Il était vraiment capable d'influencer sur notre monde de manière positive. Il était capable de repousser aussi des espèces d'ennemis extérieurs.
Des espèces d'êtres non humains.
Ben, qui venaient d'autres plans potentiels. Ouais. Tu sais, on est plus dans tenter de deviner, genre.
C'était pas une gang de joueurs, c'était...
Non, c'était des NPC, là. Okay. Vraiment important. Fait que là, ils sont partis, et donc là, l'Empire veut sa part et se battre cette année-là contre l'Andorre et la coalition de la VFA parce que ils ont laissé du matériel, si je puis dire, pour nous protéger contre les infamies. Fait que là, on veut se battre pour savoir c'est qui va pouvoir mettre la main là-dessus, là, tu sais.
Ouais.
Fait que là, ça se bat contre l'Andorre et une coalition faite avec la VFA, qui est une religion. Au travers de ce méandre déjà pas jojo, l'Empire doit aussi punir le Point de Fer pour sa trahison d'Estidlet. L'Empereur envoie ses armées aller péter la cathédrale de Sainte-Adèle, centre religieux de la vraie foi en Empire, qui était cher au Point de Fer. Cette même année, Gorgor, qui ne se prend pas pour de la merde, déclare qu'il est plus grand que le bien et le mal et détruit simultanément, le calice de Cirne et la relique de Sainte-Adèle.
Qui étaient deux objets magiques.
Oui, mais il y en a un qui représente comme la vraie foi, qui est comme, mettons, la lumière, le positif, tout ça. Puis le calice de Cirne. Cirne, c'est en fait le lieu, la ville, mettons, cachée de Teratos.
Pour
dire comme le mal.
Fait qu'il a détruit les deux objets.
Ouais, fait que là, l'amalgame de ses énergies sera absorbé par le sérénissime et fera de lui un dieu vivant. En contrepartie, ça détruit le fief de Wanganburg, qui se trouve en fait avec la capitale de l'Empire. Oups.
Qui a comme implosé avec sa capitale et son monde.
Ben, écoute, là, il absorbe de l'énergie, là, mais il y a des limites, là, ça a tout pété le reste, là, tu sais. C'est pas mal à partir de là que l'Empereur se trouve, beaucoup plus occupé à être un soleil qu'autre chose. C'est d'ailleurs un moment idéal si on veut tenter d'ébranler le cœur de l'administration impériale. Donc, Walter Strass, pour ceux qui ont écouté le pilote, Walter Strass, c'était le vampire. Mais à ce moment-là, on sait pas que c'est un vampire. Fait que c'est juste un NPC impérial dans le jeu. Ceux qui ont... c'est ça. Fait que il a mené une coalition formée d'ennemis de l'Empire pour tenter de destituer le conseil impérial. Ce qui va échouer et officialiser, en fait, la rébellion de la guilde de l'Église impériale et de l'Ordre du Point de Fer. Donc, en 1008, par la suite, on avance un peu. Excusez, pardon. À la suite de la disparition du vénérable Valmet, on se souvient, ça, c'était le seigneur de Marambo qui est parti d'un territoire de l'oubli pour aller chercher une épée magique.
Qu'on n'a jamais revu, j'imagine.
La disparition. Ça va être Petra von Schlaffenmark, qui est élu seigneur de Marienbourg. Là, il y a eu beaucoup là, de changements seigneurial là, au cours des années là, que je viens de raconter, mais j'en ai pas parlé. Et là, je souligne, dans le fond, la seigneur Petra, qui est toujours en poste, en fait, de nos jours, en l'an de grâce 1024. Elle se voit accumuler plus de 17 ans de règne. Le plus long des temps de Bicolline, si je ne me trompe pas, et en plus, c'était la première femme élue seigneur en Empire, puis elle a tenu le cap sur un pas pire temps. Fait que bravo, Petra. Pas toujours facile d'être une madame dans un party de saucisses.
C'est vrai.
Fait que c'est pour ça que je tenais à le souligner. Point de vue de la grande bataille, on tourne encore autour du départ des gardiens du savoir. Mais là, avec une petite touche funky des prophètes. On est rendu avec 6 prophètes sur les terres de Bicolline qui sont en mesure de contrer les calamités de notre monde. Et là, c'est un combat d'influence. L'Empire se pogne contre la guilde du Fain pour savoir qui va avoir le droit de leur pisser dans les oreilles. Mais tu sais, dans le fond, quand je vous dis les ces six prophètes, là, tu sais, ce qu'on appelle des érudits, là. C'est ça.
C'était Grecs... des joueurs, ceux-là.
Oui, 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 là, okay. C'est des joueurs. Là. Mais tu sais, à l'époque, on en lisait six ou cinq. Puis là, là, ça l'a changé. C'est rendu que c'est un par région. Plus les trois qui vont être élus dans les sphères de l'occulte, de la magie et de la croyance. Puis c'est ces trois-là qui vont être en mesure de faire les cérémonies. Les autres font pas des cérémonies, mais ils peuvent être présents pour influer en fait là, mais pour faire des énergies pures. Okay. Puis ça influence le jeu. Puis là, on rentre dans des règles de jeu. Puis c'est pas ça qu'on fait là. C'est ça. Fait que. C'est ça! Fait que là.
Il y en a encore aujourd'hui des érudits.
Oui, moi, cette année, je suis devenue érudit. J'ai fait ça.
Fait que c'est ta province qui choisit de dire.
Non! Moi, je suis pas une érudite de région. Ça l'aurait pu! Mais c'est pas ça. C'est Amelia, qui est érudit de la région du Bercor. L'année précédente, c'était Toki. Puis là, en fait, moi, je suis dans l'occulte.
OK, OK.
Fait que moi, je suis légère pour faire des cérémonies, mettons.
OK.
T'sais. Fait que...
Mais on s'éloigne.
Mais là, on tergiverse. Donc, on poursuit. Donc, malheureusement, en fait, c'est le Fane qui semble être celui qui est en mesure de pisser plus loin. Donc, c'est ça. L'envie a perdu.
Encore.
Sorry. Donc, en l'an 1009... On part sur la guerre des religions. L'Empire participe au projet, mais j'ai pas grand-chose à en dire, sinon que bravo pour votre plan de match, vous avez réussi à péter la vraie foi, tu sais. C'est ça. Là, on skip une année, puis on va direct en 1012. Fait que là, au bal pourpre, Karl von Schlaffenmark est élu nouvel empereur. C'est également le retour de l'Empire sur le champ de bataille en tête d'affiche, mais pas seul cette fois. Il arrive avec sa nouvelle gang de chums, l'As Impérial. Les trois couronnes, c'est-à-dire l'Aldorf, l'Argan et le Pays de Cap, forment une solide team de boulis contre l'Empire depuis un bon moment déjà. Puis maintenant qu'ils sentent qu'ils ont une solide team contre l'Empire, ils décident d'aller manger un peu plus de territoire impérial pour se grossir. C'est une bataille qui vit naître moult propagande de par les deux clans ennemis, mais au bout du compte, l'axe impérial mange une crisse de reins par les trois couronnes. La province de Marienbourg est presque rasée et plusieurs autres souffrent de l'assaut. Là, on part en 1015. L'axe impérial revient en force pour sa grande bataille.
L'axe impérial qui était... pas juste l'Empire, dans le fond.
Là, on est sur la coalition, en fait, entre l'Empire, le Bercoil et l'Andorre.
OK, OK.
Ouais. Fait que l'axe impérial revient en force pour sa grande bataille. On arrive à la fin de la prophétie des gardiens du savoir, et l'on s'apprête à se manger une estie de grosse comète d'en face. La grosse roche céleste du nom de Butazar va venir s'écraser au courant de l'année suivant la bataille et tout le monde veut tirer la couverture de son bord pour se faire le moins endommager ses shit possible. Parce que là, la comète, elle va péter, mais cette année-là, dans le fond, l'enjeu, c'est qu'on peut aller... dans le fond, les points qu'on va aller chercher, plus que t'as de points, plus que tu te protèges tes provinces, royaumes, contre, dans le fond, Butazar, qui va venir péter Bicolline. Parce que là, ça brise pas tous les domaines égales. C'est comme si, mettons, les maîtres de jeu, ils allaient faire une pige de cita, on va dire, là, à chaque domaine pour voir si, toi, tu te fais toucher, toi, tu te fais pas toucher, toi, c'est-tu une partie, toi, c'est-tu tout, c'est-tu juste ta... Je sais pas, moi, c'est-tu juste ta Montfortin qui est pété.
Là, pendant la GB, les points que le monde gagnait terrain, ben, ça les aidait dans...
Ben, c'est ça. Fait que là, ça disait, bon, ben, toi, t'as tant de domaines, mettons, que tu seras pas touché. Félicitations, tu sais. Fait que là, c'est pour ça que c'est important, hein, tu sais. Hey, ça en brisait des affaires, là. Ça fait mal. Pour vrai, ça fait quand même vraiment mal au cul, là, quand t'as investi, là, mettons, il y a pas 30 000 salaires sur un calice de domaine, que ça t'a pris 10 ans, pis que là, on te pète tout ça.
Ouais.
Merci, mais non, merci, le jeu. Fait qu'en tout cas.
C'était-tu comme une façon de l'organisation de comme faire une espèce de
refresh
et tout ça?
En tout cas, c'est un peu comme... Mais à l'époque, j'étais moins investie, là, je vais vous dire. Tu sais, j'étais pas mal plus occupée à me saouler comme un cochon. Là. Fait que, tu sais, moi, quand... De ce que j'ai pu retenir entre deux brosses, là, c'est que c'était un peu un moyen de remettre... Il y avait trop de monde riche.
Un reboot, là. Ouais,
un petit reboot. Mais c'était un petit reboot, là. Ils ont vraiment pas tout enlevé, tu sais. Je veux dire, pour tout enlever, il faut que t'enlèves les coffres du monde, tu sais. Ouais. Ça n'en empêche pas la richesse que certains ont dans le coffre, là. Fait que c'est ça qui fait un peu chenoute, là, j'ai envie de dire. C'est que il y a des joueurs que... faire le petit reboot, super, mais sauf qu'en même temps, il y en a que ça impacte pis ça fait vraiment mal, là. Parce que dans le coffre, ils ont tout investi sur leur domaine, fait qu'il y a plus rien. Puis il y en a d'autres que... Ben, plate à dire, là, mais 30 000 $ à investir dans leur domaine, ça pince un peu, mais pas tant que ça, t'sais.
Ah ouais, ok.
Ah ouais, il y en a que ça fait pas si mal que ça, tu sais. Ça pince, c'est insultant, ça pince pareil, mais il y a pas c'est personne.
C'est comme 30
pour moi, mettons. T'sais, ben, tu sais, il y a pas. Bill Gates qui perd genre 3-4 millions, là.
C'est comme mort,
tu sais. Ça fait mal, c'est 3-4 millions, mais ça va être carotte, là. Ouais, c'est ça.
J'en ai d'autres, tu
sais. Ouais, c'est ça, ça va être carotte. Fait que c'est ça, donc la bataille va en bon train, mais l'Axe remporte la victoire et se voit davantage protégé que les trois couronnes face à la comète. Donc là, on part en 1016. La comète est passée et elle en a fracassé des domaines sur son passage. Il a également fait ressortir un paquet de trésors que l'Axe veut aller chercher. Fait que deuxième année de suite, nous l'Axe se bat ensemble et on vit à ce moment-là la grande remontée pour l'Empire. Grâce à l'alliance entre eux, Landor et le Bercol, l'Axe impérial est sur une solidaire d'aller. Ça enchaîne les victoires autant à la GB qu'aux campagnes que dans le virtuel. La chance est revenue de leur bord puis ça fait du bien.
Donc, après tant d'années de...
Ben, ils ont eu des années rough, là. On dira pas le contraire. Ça fait partie du jeu, mais ils ont eu des années plus rough. Donc, en 1017, la justice contre le crime, la richesse pullule au niveau de l'Axe impérial. Du nord jusqu'au sud, les coffres sont pleins. Les récoltes, ils vont au toast, puis le commerce est meilleur que jamais. Pis ça, ça attire des malandrins, des voleurs, bref, des petits tenants. En tête de ligne des petits tenants, on a la guilde des terribles serpents à sonnette qui prend le lead de cette grande bataille. Puis de l'autre bord, l'Axe impérial dans le rôle du justicier. Vu que l'on ne change pas une formule gagnante, les axeux gagnent encore.
Ils sont dans quel coin, les serpents?
Tu veux dire au niveau de la map virtuelle ou du terrain? À niveau de la map, ils sont à Carcosa, en fait.
Carcosa qui est plus...
Mais t'as l'Empire, là, complètement à l'ouest, il y a une petite île.
Ah, okay.
Entre l'Empire pis comme Okes, là, ish, sont là, eux autres. Là.
OK. Là, bientôt, la carte...
Pis Rakim, qui est le chef de Guilde des Serpents, est aussi le roi de Carcosa.
Ah, bon.
Ah, oui. Okay. Ça va bien.
Ça l'aide.
Non, oui, ça l'aide. Ils sont pas pire. Ils font bien ça. Donc, 1018. Ici, on rentre dans une guerre, mais ma foi, déplue. L'Empire aidé de la Guilde de la Rédemption part en croisade contre l'Aldorf. Au-delà des conflits du passé, la problématique à ce moment-là s'articule autour de l'immatérium. Des alliances que l'Aldorf a avec des magiciens et des démonologistes de moyenne fréquentation. C'est ça, en tout cas, la version officielle. Mettez ça en parenthèse. C'est comme ça que le rouleau impérial passe sur l'Aldorf et détruit absolument tout sur son passage. C'est une année de consécration pour l'Empire. Il démontre à l'ensemble de Bicolin leur force militaire et économique. Un exploit violent, mais un exploit tout de même. La grande bataille de cette année-là était cruciale et il fut déclaré que la guerre était comme étant nulle, en fait, et l'Aldorf ne fut pas libéré comme l'Empire voulait le faire. Cependant, si vous regardez les résultats des trois batailles de cette semaine-là, je vous dirais que l'Empire a clenché pas pire. Techniquement, c'est tout nul, là, mais Moi, il m'a dit, il si tu regardes les résultats, ils ont gagné. Donc, on passe en 1019. L'année prend un drôle de tournant. Les alliances de l'Axe sont visiblement mises sous pression cette année-là. L'Empire est encore correct avec l'Andorre, mais ça brasse dans la soupape avec le Berquoil. Des promesses non tenues, des conclusions hâtives de part et autre, et je dirais que tout le monde avait un peu raison à ce moment-là. Plusieurs ne seraient pas d'accord avec moi, à la lumière de mes propos. À celui-là, je dirais « Ta gueule, Pierrette, de faire le gamin! » Bon. Ça a été une année très moyenne pour bien du monde et c'est venu chercher les gens dans leurs sentiments bien au-delà du jeu, malheureusement. Bicolum, c'est un jeu, mais c'est un jeu dans lequel les gens investissent énormément de temps. C'est facile de se perdre là-dedans et d'oublier que malgré toutes les heures que tu y mets, ça reste ça quand même juste un jeu. Grosse année en émotion. Mais là, mais la vie a mis un esti de break parce que, paf, la pandémie arrive. Plus de 2 ans passent et nous revoilà en 1022 avec des partenaires qui pognent les nerfs et qui s'allient avec plein d'autres guilds pour aller les péter. J'en resterai là pour aujourd'hui sur l'historique de l'Empire. Conclusion, en fait. Donc, l'Empire, c'est quoi? Si on regarde de plus près, c'est une nation qui a articulé son jeu autour d'un concept plus fasciste. J'explique. La nation qui a gagné en puissance au courant des siècles s'est vue prise en charge par des hommes qui ont tous voulu faire mieux et plus grand que leurs prédécesseurs. Et c'est rare que l'orgueil amène le meilleur au peuple. Mais les joueurs ont su en sortir le meilleur avec cette situation. Ils ont su aller jusqu'au bout là-dedans. Si vous n'avez jamais assisté à une réunion de la nation impériale, sachez que c'est du bonbon. On entend les nobles, autant que les paysans, hurler leur bonheur face aux taxes, aux impôts. Tout le monde est endoctriné à la vénération de l'empereur et de son système politique. Pendant longtemps, et sûrement encore aujourd'hui en cachette, les impériaux appelaient leurs voisins du sud les sous-hommes depuis leur indépendance en 712. Bref, c'est un peuple qui se prend pas pour de la merde, mais en même temps, quand tu regardes l'historique à base, ça serait bizarre que tout d'un coup, ils deviennent super gauchistes et ouverts aux nouvelles idées progressistes. Bref, les joueurs ont maintenu l'idée initiale de la nation qui vit un despotisme avec bonheur. Mais quelquefois, ça peut être rough d'être ferme avec ton mépris, puis surtout de faire comprendre au monde que c'est juste un jeu. C'est comme, tu joues le mépris, mais des fois, ben c'est ça, le monde en face ne va pas comprendre que c'est ton jeu nécessairement, puis ça peut être rough. Mais je considère qu'ils font quand même... Il faut quand même bien ça, mais tu sais, je pense que c'est important de se le rappeler. C'est un jeu. Donc voilà, c'est un peu ce qui conclut pour moi la définition de ce qu'est l'Empire, la mise en contexte, l'histoire et l'historique. Donc je sais, c'est un épisode très chargé.
Fait que là, aujourd'hui, dans l'Empire, il n'y a pas juste... Gorgorbé, dans le fond, c'est devenu comme une guilde, genre?
Ah, mais Gorgorbé, ça a toujours été une guilde.
OK. Mais puis à ce temps dans l'Empire, il y aurait qui, mettons?
Eh mon Dieu, il y a du
monde. Il y en a beaucoup, là.
Non, mais c'est ça, là. Je saurais pas te dire, là. Il y a plus, genre, il doit y avoir une trentaine de guides.
Shit, OK. Juste dans l'Empire.
Ouais. Ouais.
Celle qu'on entend plus parler, c'est Gorgorbé.
Non.
Non.
Non. C'est que je te parle beaucoup de Gorgorbé parce qu'au début, en fait, il y a eu beaucoup d'impact, là, en fait. Tu sais, justement, là, ben là, en l'an 1001, en tout cas, il y a eu une guerre avec eux autres qui a été faite contre l'Argane quand ils ont été payés par le fils du sultan. Là, par la suite, ben Gorgorbé, qui est le nom du personnage aussi, ben lui, il était beaucoup impliqué, justement, dans le conseil impérial. Il était régent, en fait, de l'empereur, tu sais. Là, après ça, il est devenu empereur lui-même. Là, il s'était pogné avant ça avec le point fort. Tu sais, je veux dire, historiquement, genre, au début, dans l'Empire, avec les joueurs, il était beaucoup là. Tu sais, c'est vraiment pour ça que je le nomme beaucoup. Tu sais, ça a été un duc, genre, qui a eu 15 fiefs autour de son duché, là. Fait qu'il dominait vraiment les élections. Fait que là, tabarouette, il y a du pouvoir, s'il vous plaît. Ça fait pogner les nerfs lors du point de fer. Là, après ça, il s'est fait tasser par le point de fer. T'es plus régent.
Là, est-ce que, vu que le Berquois s'est rendu une province
Non, c'est rendu une...
C'est rendu un pays en soi, puis tout ça. Est-ce que l'axe impérial existe encore?
Non.
Il n'y a plus d'axe impérial?
Non, l'axe impérial, dans le fond, c'était le nom qu'on a donné à l'alliance qui était faite entre le Vercors, l'Empire et l'Andorre.
Puis là, c'est...
Ben là, on a décroché. Je vais te dire, là, on n'est plus là.
Ça fait un bout.
Ça a désaxé.
J'avais dit, ouais.
Oui. Fait que, non, c'est ça, là. C'est plus là, c'est fini, ce soir-là. Mais tu sais, c'est déroulement. Justement, avant ça, là, tu sais, si tu regardes, avant, là, c'était plus l'Argan qui prenait beaucoup de contrôle sur le terrain, qui était vraiment plus puissant, avec justement les trois couronnes, on va dire. Là, par la suite, ben là, mettons, justement, ça a été l'Empire. Puis là, tu sais, c'est en train d'en virer de bord. Nous autres, on est partis avec un peu plus la gang, justement, de l'Aldorf, l'Argan, puis tout. Fait que là, tu sais, techniquement, on pourrait soupçonner que ça va être, tu sais, mettons, par le nombre, justement, de pays qui se sont mis ensemble contre l'Empire, tu sais, ça regarde mal pour eux autres, là, mettons. Là. Fait que là, tu sais, c'est un roulement. Puis tu sais, là, mettons, là, on s'engagerait, mettons, pour une couple d'années où ce que peut-être le Beng gagnerait sur le terrain. Ben après ça, peu importe ce qui va arriver, là, il va arriver quelque chose qui va faire que ça va se briser, puis il y a d'autres alliances qui vont se créer, puis là peut-être c'est le Berkol qui va se faire genre piler d'en face pendant une couple d'années, parce que ça peut arriver, le jeu bouge, les alliances bougent, puis il faut, parce que sinon c'est fucking plate.
Moi, ça se fait tout à l'heure.
Ben voyons, là, tu sais, moi, si je pourrais aller à Bicolline puis me dire que y a rien qui va jamais bouger, puis je vais toujours être le perdant, toujours être le gagnant, parce que pendant les années, là, ce qu'on gagnait, mettons, là, avec l'Empire, là, on va pas se mentir, c'est le fun de gagner. Y a pas personne qui va dire que c'est plate de gagner. Par contre, ce qui était plate, c'est que parfois, il y a des grandes batailles qui étaient pas équilibrées, là. Il y avait beaucoup de monde du côté, justement, de l'axe impérial. Puis ce que ça faisait, c'est que l'autre bord, il était moins, puis c'était une grande marche, là. Ouais, il y en avait pas d'ennemis en face, là. Fallait que tu le cherches, là, des fois, là. Puis ça, m'a
parce qu'il y avait déjà,
c'est long. Il y avait des batailles parce qu'on était dans la réserve et on n'a pas sorti de la réserve.
Ah,
ouais, oui, c'est déjà arrivé.
Ah, c'est fâchant, là.
C'est de la merde, là, je veux dire, parce que, genre, on est 1000 contre 600. Je m'excuse, là, mais laisse faire, là, rééquilibre les fronts, là.
Mais si je me trompe pas, je pense que dans les dernières années, c'est sûr que Bico essaie de
faire. Là, l'année passée, c'est quelque chose, en fait, le Berkois, en fait, avec le Phoenix, était en guerre contre Upir, mais en fait, c'était l'idée quand même d'avoir du plaisir. On était ennemis, mais amis, comme, parce qu'on était alliés dans la roussette. Mais là, on avait le Phoenix avait décidé de prendre la grande bataille, puis parce que personne n'y touchait, dans le fond. Le côté des nobles, c'était pas un côté reluisant, là,
techniquement. C'est pour ça que là est venu les bons nobles et les mauvais nobles.
Ben ça, c'est une belle initiative, en fait, que l'UPR a faite. Magnifique propagande, là. Hein. Puis, tu sais, en fait, Romarin qui est venu ici, justement, t'en a parlé, là. C'est ça qui a fait qu'ils ont gagné. C'est... Le bon homme, mauvais homme, la propagande qu'ils ont faite, parce que quand ils ont commencé à parler au monde, là, les nobles, pourquoi j'irais soutenir des paysans? Puis techniquement, historiquement parlant, là, on parle parler, mais historiquement parlant, il n'y aurait pas dû avoir, mettons, des nobles qui aillent se battre pour les paysans. En réalité, on va se dire, là, si tu le fais historique, là, des nobles, ça n'en a rien à chier, là, genre des paysans. Mais sauf qu'en même temps, on n'est pas obligé de faire ça historique. On est dans un géant fantastique. Fait que, tu sais, tout prend son sens, là, tu sais, je veux dire, c'est correct, là. Tu sais, fait mais ils ont vraiment réussi à aller les chercher, puis ça, pour vrai, là, c'était du génie.
Fait que là, ils se sont ramassés du monde, puis là. Mais ouais. Je pense qu'à la GB, il y a eu comme un remaniement d'hommes,
parce que... c'est ça, je parle, là, j'ai une grande roue pour arriver, finalement, à exactement ça. Vu qu'on était quand même amis, puis on voulait avoir du plaisir là-dedans, tu sais, c'est que là, rendu sur le terrain, on a fait « Hey, on va remanier justement les armées pour avoir du fun. On veut pas vivre une grande marche. On veut se battre. Tu sais, on paye assez cher venir ici, là. On aimerait ça se taper dans la gueule puis avoir un peu de fun, là. Parce que patienter puis chercher ton ennemi, quand il faut que tu cherches ton ennemi, là.
Fait que c'était roulé, les changements qui ont été faits, ou c'était comme garde pour la bataille, là?
Pour la bataille, en fait, là. C'était,
C'est qui a gagné?
L'UPR nous a pété le cul.
C'était combien contre combien? Je sais plus.
Ben, vu que les fronts ont été remaniés, dans le fond, c'était pas mal égal, là.
C'est du 1000 contre 1000, là, 800?
Non. Ben, hey, là, je sais pas, là, pour ne rien, là, j'ai pas regardé les chiffres, là. Mais mettons, on pourrait dire 800 contre 800, là. Mais mettons 800 d'un bord, 700 de l'autre, là.
Ça fait quand même longtemps. Moi, je pensais qu'il y avait bien plus de monde à la bataille, genre.
On a tout le temps cette impression-là, mais il y a beaucoup, mais tu sais, c'est quand même beaucoup de monde, là.
Mais je veux dire, sur 5000.
Ouais, mais c'est pas tout le monde qui a envie de se battre. Puis il y a beaucoup de monde avec des familles et tout, là.
Ouais, c'est sûr.
Tu sais. Non, c'est juste dans notre gang, là, check, là, je veux dire, nous autres, on a un règlement, dans le fond, chez les peuples norse, tout le monde est obligé d'aller sur le champ de bataille, t'es pas obligé de te battre, mais il faut que tu sois là. Fait que ben, ça veut dire, tu peux jouer des instruments de musique, tu peux, genre, être porteur d'eau, si tu veux juste fumer des tops en étant en tabarnak, ça t'appartient, mais il faut que tu sois là. Tu sais, dans le fond, l'idée, c'est, moi, je veux que tu viennes avec moi, puis tu m'accompagnes pendant que je meurs au combat. Mm-hmm. On est des vikings un peu dans cette idée-là, là, roleplay-ish.
Non, mais moi, je cache.
Mais tu sais, il y en a un, tu sais, c'est pas du monde nécessairement avec des enfants, c'est juste du monde qui sont pas intéressés. Fait que tu sais, c'est pas tout le monde qui est intéressé à se battre, là. Puis en même temps, en voyant certains accidents pis incidents, je peux comprendre aussi, là. Shout-out à Cloac pis ses dents pétées. Tu sais, Krim, il a perdu ses 4 dents en avant, là. Il avait fait un GoFundMe, justement, parce que ça a pas de bon sens, là. Ça coûte une fortune, là, des dents.
Ouais, ça a pas de bon sens.
Il s'est fait péter 4 dents. On va te le dire, là. Il y a eu du monde avec des morts de paix, c'est les années qui ont suivi.
Puis là, est-ce qu'on sait déjà un peu qu'est-ce qui se trame pour cet été, là?
Ben là, ça commence à se jaser puis à se faire, mais je sais pas si ça a été officialisé, là. Fait que j'en connais un peu, là. Je connais les tenants
et les aboutissants. On va sûrement en parler, justement.
Mais il faudrait que je confirme, là, que là, ça a été officialisé pour pouvoir en parler, là. J'oserais pas...
Vous écouterez le prochain épisode?
Ouais, c'est ça, prochain épisode. Si j'en parle, c'est parce qu'on peut, puis sinon, ben, qu'est-ce que tu veux? Ouais. Ça va être ça.
Bon. Hey, merci, Plex, c'est vraiment
cool. Ça fait vraiment plaisir.
Je pense que vous le réécouterez, est-ce que moi aussi je vais le réécouter parce qu'il y a beaucoup d'infos.
Il y a extrêmement beaucoup d'infos.
Bon, on a fait un bon recap, je pense.
Oui, je suis désolée pour la lourdeur de l'épisode parce que je sais que c'est énormément d'infos. Sachez que j'en ai coupé aussi énormément. Il y a beaucoup de choses, en fait, j'aurais pu rajouter, mais écoute, ça a fait un épisode de 3 heures. C'est stock quand même. Ouais, c'est ça, c'est quasiment une vingtaine de pages, là, que je vous ai composé pour ça, puis
un gros merci, en tout cas, de faire ça. J'avais ce projet-là, mais j'avais pas les connaissances et la motivation. Je suis bien content que tu tapes la job.
Ben, écoute, ça fait plaisir, mais pas vous mentir, j'avais hâte de me délivrer de cet épisode. Ben, c'est ça, j'avais hâte de me délivrer de l'Empire. Non, il y a un historique absolument fascinant, puis il y a tellement plus de choses qu'on pourrait rajouter, mais tu sais, écoute, à un moment donné, il faut que tu fasses un résumé le plus condensé,
général possible. Ben oui, puis on invite à ceux qui veulent acheter des petits trucs, puis tout ça, on peut les ajouter en commentaire ou écrivez-nous, ça va nous faire plaisir d'ajouter des détails. Oui, si ça. Vous voyez de quoi pour votre pays qui s'en vient, puis vous dites, il faudrait vraiment qu'ils parlent de ça, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir, ou du moins, là, je dis ça, puis c'est toi qui fais le script, mais
ouais, je vais essayer de la convaincre, c'est ça. Call me baby. Ouais,
là, un autre gros shout-out aussi, je pense à l'Université de Goria.
Oui, encore une fois, c'est là que j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai parlé avec du monde, mais ultimement, c'est vraiment là que j'ai puisé la majorité de mes informations. Une job de maître.
C'est ça, fait qu'on mettra aussi encore une fois le lien en commentaire. Vous irez voir ça, c'est une mine d'or d'infos, il y a plein de choses.
Yes, fait que gâtez-vous avec le site de Bico, allez regarder sur la carte. Nous, on va se revoir, en fait, pour un prochain épisode qui risque probablement d'être, en fait, sur la saison hiver 2024 qui vient juste de s'achever. Donc, on fait ça
dans le pas bien. Le de la saison hiver, puis après ça, on...
Or, pas sur une run de pays.
Puis après ça, quand on aura fini les pays, ben là, religion, puis après ça...
On checkera en temps et lieu.
C'est ça. Bon, ben, on vous aime.
Bye-bye. Go!